Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Ils vous ont effrayé lorsque vous étiez enfant, bien qu'évidemment vous n'en ayez jamais croisé en forêt ou à l'entrée d'un village. Mais voilà, dans les contes, ils sont menaçants, sournois et carnivores. Ce sont des êtres qui dévorent. La mode des loups méchants a peut-être évolué dans la littérature enfantine, mais dans l'imaginaire collectif, dans la mythologie, certainement pas. Et puis, il existe un rapport entre le loup, l'homme et le cannibalisme. Loup gris, noir, blanc, loup lumineux, loup des enfers, et aussi Saint-Loup. Saint-Loup était-il en relation avec l'animal? Faut-il lutter ou pactiser avec les loups? Invité de Paris, par Claude Métra, première diffusion sur France Culture le 11 août 1972.
La famine, l'épidémie, la guerre, ces trois fléaux qui, jusqu'au seuil de l'époque moderne, accablèrent ces terres où nous vivons aujourd'hui, sont liés indissolublement au loup, car partout où rôde la mort, le loup est là. Et c'est un étrange sort que celui de cet animal, qui est si proche par sa morphologie, par ses habitudes, de l'animal le plus quotidien, le plus humain qui soit, le plus vieux compagnon des hommes, le chien. Il est singulier de constater que dès les origines, le loup est associé à la férocité. Aujourd'hui, c'est une bête à peu près complètement disparue, qu'on associe simplement à des figures littéraires, c'est le symbole de la nuit. Et par la littérature, le loup semble être sorti de la nuit pour accéder à une sorte de lumière hautaine. Cette lumière hautaine, c'est celle que lui prête par exemple Vigny, dans son morceau célèbre « La mort du loup », Vigny qui installe le loup dans une solitude orgueilleuse et mortelle. C'est aussi cette lumière que lui accorde un romancier comme Jack London. Jack London associe le loup aux images de la liberté, de la sauvagerie primitive, de cette sauvagerie qui semble représenter aujourd'hui pour nous une sorte d'appel vers un univers plus ouvert, plus complet. Et ce que nous tenterons ici aujourd'hui, c'est une sorte de voyage dans l'imagination des hommes. Car le loup, dans sa férocité, dans son aveuglement, il a hanté nos ancêtres plus qu'aucune autre bête peut-être. Les contes de fées emportent suffisamment la trace, il suffit de penser au petit chaperon rouge. Que le loup ait eu une importance particulière dans l'humanité primitive, on en trouve trace dans les légendes anciennes, dans les mythologies et même dans les reconstitutions mythologiques. Ainsi, quand Wagner voulut réécrire l'épopée de la tribu originelle, au cœur des premiers balbutiements du monde germanique, il rencontra le loup. Et c'est ce qu'il retrace par exemple dans la Valkyrie. Là, le conflit, il est entre Frigga, qui est la déesse de la nature, et son époux Wotan, qui est le dieu de l'esprit. Les chiens sont les serviteurs de Frigga, et les loups sont les serviteurs de Wotan. Mais Wotan a eu, en dehors de sa femme, un fils, Sigmund. Et voici comment s'exprime Sigmund, lui qui sera finalement victime de Frigga et de ses chiens. C'est moi. C'est le loup qui fut mon père. Je suis venu au monde avec une sœur jumelle. Ma mère et ma sœur ont tôt disparu de ma vie. J'ai à peine connu celle qui m'enfanta et celle qu'elle enfanta en même temps que moi. Loup était belliqueux et fort. Il se fit mains ennemis. Le père partait à la chasse avec le fils. Ils rentrèrent un jour de poursuite et de combat. Le gîte de loup était vide. La salle magnifique avait été réduite en décombre par le feu. Il ne restait que la souche du chêne florissant. La mère valeureuse gisait sans vie. Toute trace de la sœur avait disparu dans les braises. C'était la horde impitoyable des chiens qui nous causa cette amère détresse. Proscrit, mon père prit la fuite avec moi. Durant de longues années, le fils vécut avec loup dans la forêt sauvage. Maintes chasses leur fut faite, mais les deux loups se défendaient vaillamment. Les chiens nous firent une chasse acharnée. Plusieurs des chasseurs tombèrent sous les coups des loups. Ainsi, traqué à travers bois, le gibier attaquait à son tour. Comme de la paille, l'ennemi se dispersa en tous sens. Mais je fus séparé du père. Je perdis sa trace. Malgré mes longues recherches, je ne trouvais dans la forêt qu'une peau de loup. Elle gisait vide devant moi. Je n'ai pas trouvé le père. Cela me chassa de la forêt et me poussa vers les hommes et les femmes. Si nombreux que fussent ceux que j'ai rencontrés, là où je les trouvais, si je tâchais de me faire un ami, une compagne, je me voyais toujours repoussé. Le malheur était sur moi. Ce que j'estimais bon semblait mauvais à d'autres, et ces autres donnaient leur faveur à ce qui m'avait toujours paru mauvais. Je rencontrais l'hostilité là où je me trouvais, la colère m'accueillait là où je me rendais. Quand j'aspirais à la joie, je n'éveillais que douleur, je n'ai possédé que la douleur. Et dans la mythologie germanique, la victoire des chiens, c'est la victoire de la civilisation matérielle, l'exaltation du travail de l'homme sur l'esprit créateur que symbolise le loup. Car face à la construction patiente de la cité des hommes, celle des chiens, le loup apparaît comme le symbole de la férocité, de la destruction, du non-accomplissement. Cette destruction, les hommes l'ont d'abord ressenti dans le temps, car ils se sont sentis mortels. C'est pourquoi ils ont assimilé souvent le loup dévorateur au temps dévorateur. Le loup est semblable au temps qui engloutit l'homme. Il est comme Chronos, le dévorateur de l'espèce humaine. Dans la mythologie nordique, par exemple, l'Apocalypse, ou ce que nous appelons ainsi aujourd'hui, c'est-à-dire la fin du monde, est précipité le jour où les loups viennent dévorer les astres majeurs. Mais ce lien du loup avec la mort n'est que l'aboutissement, le terme d'une autre image opposée, celle qui lie le loup à la naissance de la vie, car la vie est inséparable de la mort, celle qui fait du loup un grand démiurge, comme le raconte une légende des Indiens de l'Arizona.
Dans le monde d'en bas, quatre dieux furent créés par Essétain et Essétoun. Ces dieux étaient à ce point dérangés par les fourmis qu'ils dirent « Allons aux quatre points du monde ». Une source fut trouvée à chacun des points cardinaux, et chaque dieu prit possession d'une source qu'il garda jalousement. Essétain et Essétoun étaient jaloux, car ils n'avaient pas d'eau et en avaient besoin pour produire de la nourriture. Finalement, le vieil homme obtint un peu d'eau de chacun des dieux et la sema. Il en germa une source analogue à celle que chaque dieu possédait. De cette source venaient du blé et d'autres végétations. Essétain et Essétoun s'assirent face à face de chaque côté de la source, chantèrent, prièrent et parlèrent d'eux-mêmes à quelqu'un. Et ainsi, ils créèrent le culte. Un jour, le vieil homme vit un fruit dans la source. Il essaya de le saisir, mais n'y parvint pas. Aussi demanda-t-il à la femme araignée, un membre de sa famille, de le prendre pour lui. Elle fila une toile au-dessus de la source et s'en servit pour saisir le fruit qui se trouvait être une grande coquille blanche presque aussi grande qu'un panier de tussaillant. Le jour suivant, Étessin découvrit un autre fruit dans la source que la femme araignée lui apporta aussi et qui était une turquoise. Le troisième jour, ce fut encore une autre sorte de fruit qu'il découvrit et se fit rapporter par la femme araignée. C'était une coquille d'abalone. Le quatrième jour, produisit un grain de pierre noire et on le prit aussi. Après être monté dans le monde supérieur, Étessin visita les quatre coins pour voir ce qu'il pouvait trouver. Avec eux, il avait apporté un peu de tout du monde supérieur. De l'est, il apporta des plumes d'aigle. Du sud, des plumes de jais bleu. À l'ouest, il trouva des plumes de faucon et au nord, des plumes de l'oiseau tacheté de nuit, l'engoulevent. Étessin et Essétoun les portèrent à une source, les plaçant en direction des points cardinaux. Les plumes d'aigle furent placées à l'est et, près d'elles, des graines blanches et une coquille blanche. Les plumes bleues furent placées au sud, avec des graines bleues et une turquoise. Les plumes de faucon furent placées à l'ouest, avec des graines jaunes et la coquille d'abalone. Et, au nord, on plaça les plumes d'engoulevent avec le grain de collier en pierre noire et des graines de différentes couleurs. Le vieil homme et la femme chantèrent et prièrent comme ils l'avaient fait à la source dans le monde inférieur. Ils prièrent à l'est et le loup blanc fut créé. Au sud, et la loutre apparut. À l'ouest, et le lion des montagnes vint. Et au nord, ce fut le castor. Étessin fit chacun de ces animaux souverain du point d'où il était arrivé. Quand le blanc de la lumière du jour rencontra le jaune du coucher du soleil, ils s'étreignirent et le blanc donna naissance au coyote, le jaune au renard jaune. Le bleu du sud et le noir du nord se rencontrèrent de la même façon, donnant naissance le bleu au renard bleu, le noir au blaireau. Les renards bleus et jaunes furent donnés aux Pueblos. Le coyote et le blaireau restèrent avec les Navarros. Mais le grand loup est maître de tous. Le grand loup fut le chef qui conseilla la séparation des sexes. Thank you.
Si le loup, comme le montre ce récit américain, est ainsi lié à la vie, c'est qu'il est force, ardeur, rapidité, fécondité. C'est ce même loup d'ailleurs que l'on trouve en Chine, où le loup bleu, et non le loup blanc, est le créateur des grandes dynasties de l'Asie centrale. Ce qui est probable, c'est que l'image du loup lumineux, celui qui inspire et féconde la vie, est liée probablement aux populations nomades, celles qui cherchent l'espace, qui ont donc besoin de cette rapidité, de cette force. Il semble par contre que dans les sociétés sédentaires, ce soit le côté nocturne du loup, son côté infernal qui domine. Par exemple, dans la mythologie grecque, le loup est presque toujours inséré dans le monde des enfers. C'est une créature plutonienne. Ceci est lié évidemment à l'ancienne croyance populaire pour laquelle le loup, comme le chien, a le pressentiment de la mort. C'est bien connu dans l'expression « hurler à la mort » qui nous est familière. Et dans le monde chrétien où subsistent tant de traces du paganisme, c'est cette appartenance du loup au monde de la mort qui l'a souvent amené à fréquenter le royaume de Satan, prince des ténèbres, prince du monde souterrain. Au niveau de la pratique populaire, on en trouve trace dans les multiples récits qui mettent par exemple en scène les loups-garous. Et nous trouverons à ce sujet beaucoup de renseignements dans les livres très précieux de Paul Sébillot. À ce propos, Paul Sébillot dit « On a cru pendant longtemps, et la croyance est loin d'être complètement éteinte, que des hommes pouvaient être changés en bêtes, d'une façon intermittente et pour une période déterminée, pendant laquelle ils revêtaient une apparence animale pour reprendre la forme humaine quand elle était expirée. » Au Moyen-Âge, par exemple, dans les Lais de Marie de France, on parle d'un homme qui était condamné à rester 3 jours par semaine sous la figure d'un loup et qui était exposé à la garder s'il ne pouvait reprendre ses habits ordinaires. Et, presque à la même époque, on trouvera par exemple un témoignage sur un homme du Vivarais qui, à chaque nouvelle lune, se sentait comme obligé d'ôter ses vêtements et de se rouler sur le sable jusqu'à ce qu'il devint loup. Après quelques jours de vie commune avec ses bêtes, il redevenait homme. Le poète Gervaise de Tilbury raconte qu'il a connu en Auvergne un noble qui avait déshérité un de ses parents parce que celui-ci de temps en temps se changeait en loup et dévastait les étables des villageois. Un charpentier lui ayant coupé une patte, il reprit la forme humaine avec une jambe de moins, mais depuis, il cessa de mal faire. Les écrivains qui ont parlé de ces métamorphoses ont assez rarement dit les causes qui les motivaient. Quelques-unes avaient lieu à la suite d'une malédiction ecclésiastique qui semble avoir persisté jusqu'à la Révolution. Ainsi, lorsque les prêtres avaient lancé un avertissement pour faire venir à révélation celui qui avait été témoin d'un vol ou d'un crime, celui-ci pouvait être changé en bête s'il ne disait pas le nom du coupable. Le diable intervenait souvent pour changer ainsi les hommes en loups-garous. Par exemple, le diable, ou l'un de ses adeptes, pouvait donner la peau qui transformait en garou celui qui en était revêtu et qu'il déposait en lieu sûr quand sa période de vagabondage était finie. Un petit garçon, dont le procès fut instruit à Bordeaux en 1605, et qui fut ensuite interrogé par Delancre, ce magistrat qui s'est rendu célèbre lors des procès de sorcellerie, lui confirma ce qu'il avait avoué au juge, à savoir que la peau de loup lui avait été donnée par un certain monsieur de la forêt. Les loups-garous de Bretagne revêtent la nuit une peau de loup et prennent en même temps le naturel de cette bête, courant les champs, les bois et attaquant les hommes et les animaux. Au point du jour, ils cachent leur peau avec le plus grand soin et rentrent secrètement chez eux. Il existe entre leur peau et leur corps une sorte de solidarité d'impression physique si grande qu'ils éprouvent toute celle à laquelle elle est exposée. Si elle est placée dans un lieu froid, ils éprouvent tout le jour un vif sentiment de froid. Une fermière, ayant allumé du feu dans un four où l'un de ses loups-garous avait caché sa peau, il se mit à crier « Je brûle !» et à se démener comme s'il avait été dans une fournaise. Quelquefois, de diabolique, la transformation en loup-garou se révèle bénéfique. Par exemple, dans un récit gascon, on découvre ceci. Un devin, c'est-à-dire un sorcier, change un charron en loup parce que, sous cette apparence seule, il pourra se procurer le remède qui guérira son père. Après avoir couru avec les loups 6 jours et 6 nuits, arrive la Saint-Sylvestre, époque où la messe de minuit doit être dite au milieu de la forêt par un curé loup. Le charron propose de la servir, et quand elle est achevée, il feint d'aider le curé loup à se déshabiller et lui coupe la queue d'un grand coup de gueule. Il accourt chez le sorcier, n'ayant plus du loup que les oreilles, celui-ci les lui arrache, le charron court chez son père, et lui ayant fait manger toute la peau du curé loup avec les chairs, les os et la moelle, il le guérit. À côté de ces loups-garous, la tradition populaire rapporte aussi l'existence de personnages étranges qu'on appelait des meneurs de loups. C'était des gens qui étaient installés au cœur de la forêt et qui avaient pouvoir sur les bêtes. Évidemment, ces gens à qui les loups obéissaient pouvaient faire de grands ravages en envoyant les bêtes contre tel ou tel homme qui ne lui plaisait pas, et il y avait des relations entre ces meneurs de loups qu'on essayait de se concilier et les paysans qui voulaient protéger leurs biens. Ce qui est remarquable aussi, c'est que, finalement, face à ce danger extrême que représentait le loup, les hommes ont cherché moins peut-être à lutter qu'à pactiser avec la bête, comme ils cherchaient d'ailleurs à pactiser avec le diable. Et dans l'Occident chrétien, où les pratiques anciennes du paganisme se sont maintenues pendant bien longtemps, les saints jouent ici un rôle particulier. Ainsi, comme le rapporte Paul Sébillot, dans les Vosges, par exemple, Sainte Geneviève défend les troupeaux, les chiens et les bergers des attaques du loup. On croyait dans le Finistère que ceux qui donnaient du beurre à Saint Hervé n'avaient rien à craindre de ce méchant animal depuis que ce saint aveugle s'était fait guider par un loup. Et au XVIe siècle, on voit Saint Blaise invoqué pour la protection du troupeau. D'autres cérémonies plus précises nous renseignent sur ce pacte entre l'homme et le loup. Ainsi, en Basse-Bretagne, chaque année, le 24 juin, c'est-à-dire le jour de la fête de Saint-Jean, qui joue un rôle fondamental dans la tradition paysanne, les bergers se rendent un peu avant le jour au carrefour du loup le plus rapproché de leur demeure. Et ils attendent, pieusement agenouillés, que le soleil se lève, et dès qu'ils peuvent saluer son premier rayon, ils réclament, en récitant une oraison assez longue, l'intervention de Saint Jean, protecteur des moutons. Et, suivant une idée assez fréquente, Saint Loup, qui a ses églises et ses chapelles, est en relation avec son sauvage homonyme, car on a cru qu'il en préservait les hommes et les bêtes. Au XVe siècle, par exemple, on faisait une offrande à Saint-Loup pour recouvrer la parole perdue à la suite de la rencontre de ce carnassier, et on conduit les enfants à la chapelle de Saint-Loup pour les préserver de la peur du loup. Et le gâteau dit de Saint-Loup, que l'on confectionnait autrefois en Belgique, en Wallonie plus précisément, était destiné à empêcher le loup de nuire au bétail qu'on laissait seul dans les pâturages. Et ce gâteau de Saint-Loup était triangulaire en l'honneur de la Trinité. On y faisait 5 trous en l'honneur des 5 plaies de notre Seigneur et on le donnait aux premiers pauvres que l'on rencontrait. Mais il existe aussi une magie plus primitive qui représente une sorte d'alliance, de pacte avec la bête maléfique. Par exemple, au commencement du XVIIe siècle, il y avait autrefois au pays du Berry et en quelques autres endroits de la France des bergers qui faisaient ouvertement profession de sortilèges et de magie et se louaient à qui voulait à garder le bétail pendant 1 an et le préserver du loup en usant de charme. Cette industrie disparut peu à peu au fur et à mesure que les loups disparaissaient. Pourtant, dans les Ardennes, il y a une centaine d'années encore, un homme charmait les loups en récitant une incantation dont il ne voulut jamais révéler les paroles exactes. Dans la littérature populaire, on trouve plusieurs oraisons qui ont pour effet d'empêcher les carnassiers de nuire aux troupeaux et aux volailles. Dans l'Aveyron, par exemple, on trouve une patenôtre que récitait un certain nombre de sorciers. Dans les Vosges, on faisait une prière à Sainte Geneviève et on lui disait Sainte Geneviève, qui avait été 7 ans bergère, gardez mon chien du loup ainsi que moi et tout ce qui m'appartiendra. Bridez le loup et la louve, s'il vous plaît, Ave Maria. Dans les Ardennes, il y a plusieurs formules qui varient suivant les cas. Loup, louve ou louvinet, je te conjure de la part du grand Dieu vivant. Tu n'auras pas de pouvoir sur moi ni sur les bêtes qui sont à ma charge, pas plus que le grand diable n'en a sur le prêtre à l'autel quand il célèbre la sainte messe. Que le bon Saint-Georges te ferme la gorge, que le bon Saint-Jean te casse les dents. Lorsqu'il s'agit de préserver les brebis égarées, il faut dire le petit récit suivant. Saint-Pierre et Saint-Jean, se promenant dans ces vallons, y rencontrent Louve et Louveton. Louve et Louveton, que fais-tu dans ces vallons ? Je cherche si j'y trouverai des bêtes égarées. Que leur ferais-tu ? Je les égorgerai, je leur sucerai le sang. Je te conjure de les garder jusqu'au soleil levé. Et en Franche-Comté, on adjurait loup, louve et louveteau de ne pas étrangler la bête, dont il fallait dire exactement l'âge, le poil, ainsi que les marques particulières. Et en Champagne, on récite à genoux, après un pater et un ave, une prière qui se compose d'une sorte de dialogue entre le loup et la personne dont le troupeau est égaré. Si la personne se trouble, c'est l'indice que le loup est en train de dévorer l'animal perdu. Eh bien, cette alliance entre le loup et l'homme, ce besoin de pactiser avec quelque chose qui a au fond une appartenance diabolique, elle peut prendre des formes plus précises. Il y a évidemment, et l'histoire chacun la connaît, la louve qui est aux origines de Rome. Mais, beaucoup plus près de nous, il y a un siècle en Amérique, on racontait une histoire qui rappelle à plus d'un titre l'aventure romaine. Seulement ici, ce n'est pas la civilisation qui y triomphe, mais bien plutôt la sauvagerie. Dans cette histoire, nous voyons 2 trappeurs qui s'en vont chasser les bêtes à fourrure dans le Grand Nord. Mais ces 2 trappeurs sont amoureux d'une même fille, et à cause de cette fille, ils vont se battre et finalement, l'un d'eux tuera son compagnon. Puis, lorsqu'il a tué son compagnon, il s'en va chercher la fille, et comme il est meurtrier, par conséquent poursuivi, il doit s'enfuir avec elle dans la montagne. Et personne n'entend plus parler d'eux. Jusqu'au jour où des fermiers indiens voient arriver chez eux un cavalier qui vient demander de l'aide. Ce cavalier, personne ne le connaît, mais il réclame l'aide de ces gens, parce que sa femme, qui habite dans la montagne, va mettre au monde un petit enfant. Et il leur indique à peu près où est son habitat. Juste à ce moment-là, survient une tempête et le cavalier mystérieux est tué. Alors les fermiers indiens, pleins de compassion, décident d'aller au secours de la jeune femme, mais ils finissent, quand ils arrivent à l'endroit que le cavalier leur a indiqué, par trouver l'endroit où est cette jeune femme, mais cette jeune femme est morte. Visiblement, elle vient de mettre au monde un petit enfant. Elle est morte en couche, mais il n'y a aucune trace de l'enfant. Simplement partout, du sang, comme s'il s'était passé quelque chose de très curieux. Et c'est bien des années plus tard qu'il se produit des événements extraordinaires qu'on va mettre en relation avec cet événement étrange. 15 ans plus tard, en effet, arrive ceci.
En 1845, un garçon de San Felipe dit avoir vu un troupeau de chèvres attaqué par des loups et par une créature aux cheveux longs, sans aucun vêtement, et ressemblant à une fille. Quelques Américains de passage se moquèrent de lui. La description de la fille nue sembla les intéresser plus que toute information concernant l'étrange créature. L'histoire fut ridiculisée, mais la nouvelle se répandit dans les campements d'alentour. Moins d'un an après, une femme mexicaine de San Felipe déclara avoir vu deux gros loups et une fille nue dévorer une chèvre après l'avoir tuée. Elle s'approcha d'eux, dit-elle, avant qu'ils ne la voient, mais tous trois s'enfuirent. La fille courut d'abord à quatre pattes, puis debout à côté des loups. La femme était sûre de ce qu'elle avait vu. Le petit campement de la rivière du Diable se mit aux aguets. On se rappela la disparition de l'enfant et les traces de loups autour de la hutte. Des pionniers racontèrent comment les louves portaient leurs petits par la peau du cou sans leur faire le moindre mal. Peut-être, disaient-ils, une louve au fort instinct maternel avait emporté le nouveau-né dans sa tanière et l'avait élevé. Des Indiens racontèrent qu'ils avaient remarqué des traces de pieds nus et même de mains dans le sable le long de la rivière. Une chasse fut organisée pour capturer l'enfant loup de la rivière du Diable, comme on l'appelait maintenant. Ces chasseurs mexicains n'avaient sans doute jamais entendu parler de Rémus et de Romulus allaités par une louve, ni des enfants élevés par des loups comme le Mowgli de Kipling. Mais là, aux confins d'un pays nu et désolé, ils étaient face à l'évidence indéniable d'un être humain élevé par des loups et vivant avec eux comme un animal sauvage. Le troisième jour de la chasse, ils trouvèrent la fille près d'un petit canyon. Elle était avec un gros loup qui se détacha d'elle quand elle se glissa dans une crevasse. Les vaqueros lancèrent clair. Elle se tapit d'abord comme un lapin, puis cracha et siffla comme un chat sauvage. Elle se battit, griffa, mordit. Pendant que les vaqueros l'attachaient, elle proféra des sons pitoyables, effrayants et sinistres, ressemblant à la fois au cri d'une femme et au hurlement d'un loup. Comme elle poussait ces hurlements, un loup énorme, celui sans doute dont on l'avait séparé, apparut tout à coup et se précipita vers les ravisseurs. L'un d'eux le vit venir avant qu'il ne les morde de ses crocs puissants. Cette coïncidence leur sauva probablement la vie. L'homme le tua net d'un coup de pistolet. À cette vue, la fille s'évanouit sans un cri.
La captive, maintenant attachée, pouvait être examinée plus attentivement. Elle était très poilue, mais sa poitrine merveilleusement galbée et d'autres détails anatomiques prouvèrent qu'elle était une femme normalement formée. Ses mains et ses bras étaient extraordinairement musclés, mais bien proportionnés. Revenue de son évanouissement, elle fut conduite à cheval au ranch voisin. Elle fut délivrée et laissée dans une chambre isolée pour la nuit. Avec maintes gentillesses, on lui offrit une couverture, de l'eau et de la nourriture. Mais nul aigle du grand ciel, nul lion de la jungle profonde ne montra plus de méfiance et de peur envers ses ravisseurs. Elle se réfugia dans le coin le plus sombre. On la laissa seule, la porte était fermée, la seule ouverture était une petite fenêtre en travers de laquelle on avait cloué une planche. Le ranch, une cabane de 2 pièces, était isolé au milieu de ce désert. 4 ou 5 hommes s'y réunirent pour la nuit. Soudain, l'être sauvage et fou enfermé dans la chambre poussa des hurlements terrifiants que la nuit portait de loin en loin. Bientôt, d'autres hurlements longs et profonds lui répondirent. Ses cris lugubres et lointains paraissaient venir de tous côtés. Tous les loups de l'ouest semblaient s'être rassemblés. Les rancheros, qui toute leur vie avaient entendu des loups hurler, n'avaient jamais rien perçu de tel, ni deviné un si grand nombre de loups. ni écouter ses hurlements longs et sinistres. La horde s'approcha. Ils hurlaient maintenant à l'unisson. Leur voix féroce et désespérée formait un chœur qu'aucun musicien n'imagina jamais. Puis, comme dans l'attente d'une réponse, ils se taisaient. Alors le cri sinistre de la fille sauvage montait de la chambre obscure. Un moment après, la horde s'élança dans les corrales, attaqua les chèvres, les vaches et les chevaux sellés. Alertés par les cris des animaux domestiques, en particulier les hennissements des chevaux qui ruaient et se cabraient, les hommes vinrent à leur secours. Ceux qui ont l'habitude des loups n'en ont pas peur, mais cette fois, les rancheros restaient groupés, tiraient dans l'obscurité et criaient en avançant. Pendant ce temps, profitant de ce bruit infernal, l'enfant loup arracha la planche de la fenêtre et s'enfuit. Il rejoignit sans doute tout de suite les loups. On n'entendit plus un hurlement de la nuit, et le lendemain, on ne trouva aucune trace de la jeune sauvage. Les loups ne se montrèrent pas pendant très longtemps dans la région.
Six ans passèrent et l'on n'entendit plus parler de l'enfant loup de la rivière du diable. La découverte de l'or en Californie accrut le nombre des voyageurs. En 1852, un groupe de pionniers descendirent vers le Rio Grande, loin de l'embouchure de la rivière du diable. Ils dominaient presque le fleuve mais ne voyaient pas ses berges. C'est alors que, sur un banc de sable, ils virent soudain une jeune fille nue donnant le sein à deux jeunes loups. D'un bond, elle se leva, un louveteau sous chaque bras, et s'enfuit dans les fourrés à une vitesse qu'aucun cheval n'aurait pu atteindre. Cette créature ne pouvait être autre que l'enfant loup de la rivière du diable. D'après ce que nous savons, aucun homme ne l'aperçut plus jamais. Quelques Apaches en auraient peut-être parlé s'ils avaient pu. Quel fut le destin de l'enfant loup, personne ne le saura sans doute jamais. Pendant la guerre d'extermination des loups, les animaux les plus féroces que les bouviers américains aient jamais connus, on trouva parfois un loup à face humaine. Et depuis des années, les loups au visage d'homme furent tenus en Géorgie pour l'image la plus frappante à la fois du meurtre et de l'enlèvement. Si un homme ressemble quelquefois à un animal, pourquoi les animaux ne ressembleraient-ils pas à l'homme ?
Pour en finir avec cet aspect mythique du loup, je voudrais simplement citer un texte légendaire qui nous vient de la Colombie-Britannique et qui a été publié par Benjamin Perret dans son beau livre sur les mythes et légendes d'Amérique. Voici ce texte. Les loups avaient une fête à l'embouchure de la rivière Skeena. Ils invitèrent les chefs des daims à la fête. Les daims qui avaient été invités vinrent. Ils s'assirent alors dans la prairie en face des loups. Les loups dirent aux daims « Vous, en face, commencez à rire !» Mais les daims n'acceptèrent pas. Ils dirent « Riez les premiers, vous !» Les loups répondirent « Eh bien, nous allons rire !»« Ha 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 !»« C'est à vous de rire maintenant, à vous de l'autre côté !» Alors les daims rirent « Hum, hum, hum !»« Maintenant riez de nouveau, loups !» Alors les loups rirent encore. « Ah ! Ah, ah, ah ! » Les daims eurent peur quand ils virent les grandes dents des loups. Les loups dirent « Maintenant, vous, de l'autre côté, vous allez rire de nouveau. Ne gardez pas la bouche fermée quand vous riez. Personne ne rit de cette façon. Vous devez ouvrir la bouche aussi grande que possible quand vous riez. Allez-y, faites du mieux que vous pourrez. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. » Ainsi dirent les loups. « Et maintenant, riez. » Alors les daims rirent à nouveau. « Ah, 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 ah !» Ils ouvrirent grand leur bouche. Ils n'avaient pas de dents. Quand les loups virent qu'ils n'avaient pas de dents, Ils se jetèrent sur eux et les déchirèrent. Alors ils dévorèrent les daims. Seul un petit nombre de daims réussit à s'échapper. C'est pour cette raison que les daims ont peur des loups. Eh bien, il me semble que ce récit illustre de manière très concrète l'aspect mythique dévorant du loup. Mais au-delà du mythe, il y a la réalité, notre réalité. Depuis longtemps, le loup apparaît comme l'image d'une double violence. La violence qui est dans l'être, qui conduit au déchirement intérieur, à l'extermination de soi, à la dissolution de soi, et aussi la violence qui s'inscrit dans la relation entre les hommes et qui s'accomplit dans les multiples affrontements qui jalonnent l'histoire de notre espèce. Et c'est cette violence du loup qui est en reflet, dont on voit l'image dans notre propre société, que nous tenterons de caractériser maintenant. Et notre guide dans cet itinéraire sera Hervé Savon, qui dans la collection « Guerre et paix », dirigée chez Hachette par Gaston Boutoul, vient de publier un essai remarquable du cannibalisme au génocide. Alors Hervé Savon, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est précisément parce que en étudiant ce problème du cannibalisme qui est le point de départ de votre réflexion, nous nous trouvons en quelque sorte plongés dans ce monde de loups que nous venons d'évoquer. Le loup, c'est en effet un animal dévorant. C'est celui qui mange la chair de l'autre. Dans votre livre, Gaston Boutoul, en le présentant, nous donne cette citation suivante. Si, paraphrasant le célèbre mot de Hobbes, on dit « l'homme est un loup dévorant pour l'homme », le cannibalisme constitue une véritable introduction au génocide. Tous deux représentent les sommets de la férocité et d'une cruauté qui conduit à manger ses ennemis à la fois pour s'incorporer leurs forces et les réduire en excréments. Nous avons donc le double mouvement qui caractérise ce geste, cette manière de manger l'autre, que dans la société humaine nous trouvons exprimé à travers le cannibalisme. Alors, Hervé Savon, qu'est-ce que c'est que le cannibalisme? Que signifie-t-il?
La réponse n'est pas tellement simple, parce que si, hélas, le génocide est tout proche de nous, historiquement, nous ne le savons que trop bien. Le cannibalisme, nous l'imaginons facilement comme quelque chose d'exotique, de lointain et par conséquent de difficile à interpréter, d'autant plus que les cannibales, ou supposés tels, interrogés, sentent une certaine réprobation qui les arrête dans leurs explications. Ce qui fait que souvent, les interprétations que l'on donne, que les Européens, les Occidentaux donnent du cannibalisme, comportent une grande part de projection. L'ethnologue revit en partie les faits dont il parle. Au début du XXe siècle, les ethnologues américains s'exprimaient sur le cannibalisme en termes de protéines ou de calories. Ce qui n'est pas nécessairement faux, d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'on pensait que le cannibalisme était essentiellement le fait de carences alimentaires, qu'il répondait à un besoin de se nourrir.
Exactement. Et je crois que c'est en partie vrai, c'est-à-dire que certaines populations cannibales, en Océanie notamment, ont des difficultés pour trouver leur alimentation, qui fait que la rencontre d'un homme à dévorer est en somme une bénédiction tout à fait matérielle et qui n'a pas besoin d'être entourée d'un halo mystique. Cela paraît quand même très insuffisant pour l'ensemble des cas, et sans doute pour les cas les plus intéressants, qui sont les cas de cannibalisme rituel, où alors les victimes sont cherchées très loin, dangereusement, sont ramenées solennellement et sont immolées au milieu de tout un ensemble de cérémonies, avec une liturgie extrêmement frappante, très poétique souvent, énigmatique bien sûr en grande partie. Je crois que les interprétations du cannibalisme ont oscillé entre ces deux pôles, le pôle utilitaire et le pôle mythique. Entre les deux, on peut en France noter l'interprétation des positivistes comme Lévi-Brulle, qui voyait dans le cannibalisme une sorte d'esquisse d'une recherche scientifique. On s'assimilait par la manducation des forces obscures contenues dans le corps et dans l'âme, ce qui était peu distinct naturellement de celui que l'on mangeait. Cela paraît vrai peut-être, mais secondaire. Il semble qu'il y a essentiellement l'idée suivante. Les interprétations que l'on a pu découvrir des mythes que les cérémonies cannibales en Nouvelle-Guinée ou au Brésil en particulier comportaient, impliquaient, semblent montrer que la cérémonie cannibale est en somme la reproduction, la réactualisation mythique d'un événement primordial, le meurtre d'un être dangereux, redoutable, qui, une fois tué, donne naissance, et souvent par son sang, par les débris de son corps, à l'humanité que nous connaissons, à la race humaine. Donc l'idée centrale serait, si vous voulez, la vie par la mort, serait que notre espèce, comme toute espèce, ne peut subsister, ne peut exister qu'en détruisant autour d'elle.
Il y a deux aspects qu'il faudrait peut-être distinguer dans ce sacrifice et dans cette manducation de l'autre. D'une part, si vous voulez, on se trouve en face de sociétés qui exterminent des ennemis pour les manger, mais l'autre est considéré comme un ennemi, comme celui qu'on pourchasse. Mais il est d'autres sociétés dans lesquelles les sacrifices sont volontaires. Vous citez par exemple les cités américaines anciennes, dans lesquelles précisément les sacrifices rituels étaient des sacrifices accomplis à travers des individus qui s'offraient presque librement, qui étaient choisis, c'était presque des souverains, des princes, qui étaient sacrifiés, mangés, et qui participaient ainsi à cette fête générale de la tribu.
Oui. Je pense que cela doit varier selon les cultures. Vous avez d'ailleurs ajouté le mot « presque » qui est assez important. Je crois par exemple que chez les Aztèques, il y avait en somme un mélange de contraintes et de liberté. Malgré tout, je pense que les sacrifiés étaient généralement des prisonniers. Mais des prisonniers qui finissaient par accepter leur sort et par participer librement à la cérémonie. En somme, on peut dire au moins qu'à l'étape finale, dans ces civilisations-là, la victime était consentante, même si au début, évidemment, sa capture n'avait pas été l'effet de sa libre volonté. Je crois que cela permet alors de confirmer le fait suivant, c'est que dans le cannibalisme, ce qui est essentiel, ça n'est pas tant l'idée de détruire un ennemi que l'idée d'accomplir une réactualisation, un renouvellement mythique, mystique, d'un événement situé à l'origine des temps, ou au moins à l'origine de l'humanité.
Voici d'ailleurs ce qu'était cette cérémonie chez les Aztèques. Vous dites que cette civilisation raffinée gravitait autour d'une religion dont le rite le plus solennel était le sacrifice humain accompagné d'anthropophagie. Cela se passait au cours de fêtes annuelles ou cérémoniales très strictes qui pouvaient faire quelques 20 000 victimes. Celles-ci étaient dans quelques cas des volontaires qui se consacraient librement à la divinité de leur choix. Ce pouvaient être aussi des enfants que l'on achetait. En règle générale, c'était des prisonniers que l'on avait capturés dans des guerres qui avaient pour fonction essentielle d'alimenter le culte. Car les dieux des Aztèques, le soleil, la lune, le dieu de la récolte, étaient anthropophages. Il leur fallait des victimes humaines à dévorer. Si l'on n'avait pas pu leur en offrir, tout le cosmos se serait déréglé. Ces prisonniers étaient soigneusement gardés pour être sacrifiés à une prochaine solennité. L'une des futures victimes était considérée par les prêtres comme l'image vivante du dieu. Elle était donc l'objet des soins les plus attentifs et traitée avec des égards extrêmes. Le bel adolescent destiné à être immolé à Tezcatlipoca se trouvait être tout particulièrement favorisé. On ne négligeait rien de ce qui pouvait faire de lui un homme accompli. On lui apprenait à fumer comme les adultes. On lui enseignait à jouer de la flûte. Les nourritures les plus exquises et les plus beaux vêtements lui étaient réservés. 20 jours avant la fin, on lui amenait les 4 plus belles jeunes filles. Quand le jour de la fête était venu, une barque le portait jusqu'au temple de son dieu. tandis qu'il se dépouillait peu à peu de ses vêtements. C'était nu qu'il devait gravir les escaliers du temple. À chaque marche, il brisait une flûte. Dès qu'il était arrivé sur la plateforme, on se saisissait de lui, on l'étendait sur une grande pierre, et tandis que 5 prêtres le maintenaient, les sacrificateurs lui ouvraient la poitrine et en arrachaient le cœur en prononçant le nom du Dieu. Ce cœur était ou mangé par les prêtres les plus anciens ou brûlé. Le corps était précipité et roulait jusqu'au bas des gradins au milieu de la foule qui attendait. Cette fin sanglante était à quelques variantes près celle des autres prisonniers. Les corps étaient ensuite consommés lors d'une grande fête où la musique, la danse et l'ivresse étaient de rigueur. Alors, en évoquant ces fêtes aztèques, Hervé Savon, on peut se demander ce que signifie dans l'ordre général du monde, dans cet accord, cette harmonie que les hommes cherchent avec les dieux, la signification de ce sacrifice et surtout de cette manducation. Pourquoi manger ?
Je pense que vous avez dit au début de notre conversation quelque chose qui est tout à fait essentiel. C'est que, à propos du loup, vous remarquiez que c'était à la fois le symbole de notre agressivité qui s'adresse à nos semblables, et que c'était en même temps l'image, la projection, si l'on veut, de ce déchirement intérieur que nous connaissons tous, et qui est en somme, peut-être, une agressivité tournée contre nous-mêmes. Je pense, par conséquent, que l'on pourrait envisager cette hypothèse, le meurtre que l'on trouve au centre du rituel cannibale, c'est un ennemi que l'on tue, et cette mise à mort, au point de vue liturgique, est particulièrement soulignée. Et la communion, en somme, n'est qu'une sorte de conséquence extrêmement importante, mais qui est liée, connexe, et dans l'aura, si l'on peut dire, de la mise à mort. Je pense donc que cette mise à mort pourrait bien être une sorte de projection à l'extérieur de cette agressivité que nous exerçons d'abord contre nous-mêmes, et que la manducation exprimerait alors ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur, cette espèce de conciliation. N'est-ce pas, en somme, là, la mise à mort serait l'extériorisation libératrice de l'agression, et la communion serait la réconciliation finale.
Parce que dans un certain sens, au fond de nous, nous aurions le désir de nous manger nous-mêmes.
Ou peut-être plus exactement de nous tuer nous-mêmes. De nous tuer nous-mêmes. Le désir que nous projetterions, que nous déchargerions en quelque sorte sur nos semblables, et la stylisation liturgique donnerait une grande efficacité psychologique sans doute à cette extériorisation. Et la communion serait en somme un rite de réconciliation, où malgré tout l'aspect violent et inquiétant de l'acte commis serait en somme compensé, annulé par cette réunification avec celui qui a été mis à mort. Et là, je pense à l'article que Freud a publié je crois, vers 1920. En tout cas, dans les années qui ont suivi immédiatement la première grande guerre mondiale, et je crois que cette date est significative, article dans lequel il exprime un tournant, en somme, décisif, extrêmement grave, dans son itinéraire psychanalytique. Le tournant suivant. Comment expliquer que, dans certains rêves, nous recommencions, en quelque sorte, des chocs pénibles, des chocs dramatiques, si l'on admet, avec Freud lui-même, avec le premier Freud, que le rêve est toujours l'expression d'un désir, l'expression camouflée peut-être, mais au fond, de quelque chose que nous souhaitons. Peut-être alors, y a-t-il dans tout être humain, peut-être tout être vivant, mais restons sur le plan humain, peut-être y a-t-il simplement un désir de répétition, de recommencement, de quelque chose qui a été vécu dans un passé lointain, au moins pour l'individu qui le revit. Un passé originel, et nous connaissons tous les mythes du paradis terrestre, c'est capital, le retour au paradis. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le plus lointain? Qu'est-ce qu'il y a à l'origine du vivant? Eh bien, il y a l'inorganique. C'est Freud qui le dit toujours dans cet article. Il y a l'inorganique. Et alors, tendre à retrouver, à recommencer cet état primordial, bien, c'est tendre à la mort. Donc, il y aurait, et dans tout être humain, un désir de mort.
Freud s'inscrivait évidemment et voulait s'inscrire dans une tradition profondément rationaliste, matérialiste. Il voulait recourir aux lumières de la raison. Et on avait pensé longtemps, ça a été l'espérance du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, que la raison humaine allait donner un sens à toute cette aventure et que surtout elle allait parvenir à dominer ce qui, en l'homme, était force de destruction. Or, il semble qu'en réalité, il y a là ce qu'on pourrait appeler les impostures de la raison. La volonté d'organiser rationnellement le monde ne parvient pas à dominer cette violence, elle tend à lui donner une autre forme. Autrement dit, le loup qui est en l'homme ne peut pas être tué par l'homme raisonnable.
Ou peut-être la raison est-elle un instrument de ce loup. Vous avez utilisé deux fois le mot « domination ». Et je crois que c'est une des caractéristiques de la raison, au moins de la raison moderne, de la raison idéaliste. La révolution annoncée à la fin du XVIIIe siècle, dans l'homme qui, en somme, exprime au maximum les lumières, c'est-à-dire Kant, eh bien, cette révolution, c'est la suivante, la raison n'a plus à se régler sur les choses, mais elle a réglé le monde sur elle, ce qui est essentiellement une entreprise de domination. Et la domination, c'est toujours une agression. Et cette agression s'exerce non pas seulement sur le monde matériel, que l'homme connaît, interprète et transforme grâce à sa raison, mais aussi sur l'homme lui-même. La raison est essentiellement généralisante. Par conséquent, en tant que telle, elle ignore l'individu. Elle ignore l'individu qu'elle considère seulement comme, en somme, un exemplaire parmi d'autres. Par conséquent, on a pu penser que, justement, ce triomphe de l'idée générale, ce triomphe de l'abstraction, permettait ces massacres massifs, qui sont eux-mêmes essentiellement une négation de l'individu.
On a pu croire, jusqu'à une époque assez récente, que la violence qui était contenue dans l'homme et dans les sociétés humaines était au fond le reste d'un vieil héritage et que petit à petit, le progrès des Lumières allait donner à l'humanité son organisation et sa paix. Et puis, il y a eu le dernier conflit mondial. Il y a eu en particulier cette sauvagerie qui s'est marquée par les camps de concentration et cette espèce d'exaspération dans la cruauté, dans la destruction à la fois physique et mentale de l'espèce humaine. Il y a eu Auschwitz, et Auschwitz a été le point de départ d'une réflexion d'un intérêt extrême dont je voudrais que vous nous parliez maintenant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Auschwitz? Qu'est-ce que ça représentait dans le destin de loup de l'homme?
Un scandale extraordinaire, justement parce que Auschwitz se situait en plein XXe siècle, dans une Europe industrialisée, rationalisée au maximum, et non pas dans quelques continents lointains, supposés marginaux, étranges, et d'où peuvent provenir, aux yeux des Européens, n'importe quelle aberration. C'était donc un scandale absolument extraordinaire de voir cette violence destructrice éclater précisément dans le pays de Kant, n'est-ce pas, le pays de l'auteur de la paix universelle, enfin de qui prétendait précisément assurer par la raison cette paix, cette harmonie. Dès 1945, Adorno et Horkheimer se sont occupés de ce problème. Ce sont deux noms qui ne sont peut-être pas très familiers en France, pourtant nous connaissons leurs héritiers, c'est le mouvement de mai, c'est toute cette fermentation qui a pris son origine en Europe, à Francfort, avec l'école de Francfort. Et précisément, ces deux sociologues, ces deux philosophes en même temps, se sont interrogés, que signifie Auschwitz? Eh bien, pour eux, Auschwitz signifie précisément que la raison est essentiellement domination et agression. Elle ne représente pas le salut. Sans doute, le retour en deçà de la raison est aussi destructeur. Et précisément, il y a dans le nazisme un aspect d'aliénation, d'irrationnel. Mais ce retour destructeur à une sorte de pré-rationalisme n'est rendu possible que dans ce climat où précisément l'individu se trouve nié et remplacé par l'abstraction, que ce soit l'abstraction de l'idée ou que ce soit l'abstraction de l'argent, n'est-ce pas? C'est le même monde où tout est interchangeable. Le triomphe du général, c'est aussi le triomphe du capitalisme pour Adorno.
Et à ce moment-là, il est bien évident que devant un tel état de fait, le recours à ce qu'on appelait autrefois la morale, la solidarité, enfin tous ces beaux noms sous lesquels on a enveloppé l'espérance humaine, ne sont plus d'un grand poids. Et que la réflexion sur le monde contemporain se trouve comme bloquée. J'ai entendu l'autre jour, lors d'une conversation avec un homme qui est à la fois un savant et un philosophe, une réflexion qui est à vrai dire assez terrorisante. Dans l'organisation actuelle du monde, on sait que dans les prochaines années, on devra supprimer, c'est un fait concret, quelques centaines de millions d'hommes. Enfin, c'est lui, vous voyez ainsi les choses. Bon. Cette suppression de quelques centaines de millions d'hommes, on la voit déjà se manifester à travers un certain nombre de fait de ce qu'on appelle maintenant les génocides. D'autres l'envisagent de manière plus humaine par l'extension des phénomènes de surveillance, si vous voulez, de la natalité. Mais en fait, on se rend bien compte qu'on se trouve là confronté à une situation que l'esprit contemporain, la lumière de la raison, ne peut pas aborder.
Et dans un sens, on pourrait comprendre dans ce sens cet instinct de mort comme une sorte de fonction biologique permettant justement un certain équilibre humain. Ce serait affreux, mais on ne peut pas ne pas poser la question.
Alors, il y a un problème qui se pose, c'est que dans nos sociétés européennes, on a le sentiment que, pris dans une sorte de croissance régulière, dans un mouvement où la civilisation matérielle se transforme profondément, toute cette violence qui est dans le monde contemporain est, pour ainsi dire, occultée, cachée. La violence active, celle qui s'exprime par les génocides, précisément, par les révolutions nationales, par les guerres, apparaissent comme le fait de territoires lointains, marginaux. Mais est-ce que cette occultation de la violence n'est pas, en fait, si vous voulez, le fruit d'une volonté de cacher la réalité? Est-ce que dans notre société, il n'y a pas une violence tout aussi active, mais qu'on refuse de voir, et qui finalement aboutit à des formes de destruction dans l'avenir comparables à celles que prend le génocide dans les pays plus éloignés.
Il est certain que les moyens de diffusion qui sont contrôlés par les États occidentaux, les rapports, les informations sur tel ou tel génocide plus ou moins lointain, servent souvent à orienter l'attention du public vers des réalités qui ne sont pas directement gênantes, et par conséquent à la détourner de la violence beaucoup plus proche dont vous parlez. Mais je pense que ce mécanisme de dérivation est peut-être, il est sans doute réfléchi dans une certaine mesure, mais je pense qu'il est spontané, que c'est dans l'ensemble les hommes qui ont en eux des mécanismes protecteurs, peut-être, qui les empêchent de regarder ce qu'ils ne pourraient supporter. Il y a une maxime de La Rochefoucauld que nous avons peut-être commentée l'un et l'autre en classe, c'est que le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. Par conséquent, pour regarder la mort ou pour en parler, nous avons toujours besoin de périphrases, de métaphores ou de symboles. Et longtemps, on a parlé, et la mort était très présente en Europe, sous une forme symbolique ou liturgique. Je pense à la civilisation baroque, je pense à ces églises de Souabe ou de Bavière, où le crucifix, n'est-ce pas, la croix, l'instrument de supplice mortel, apparaît au centre, mais entouré de toute une orchestration, parfois très belle d'ailleurs, d'envols, d'anges, d'or, de lumière.
Une fête.
Une fête. Et je crois que c'est seulement sous cette forme, ou sous une autre métaphore, que la mort peut apparaître. Et cela, c'est indispensable. Je crois que une des erreurs du rationalisme du XVIIIe siècle, c'est d'avoir absolument était fermé à la compréhension du mythe. Ce que Voltaire dit souvent des récits bibliques est aberrant à ce point de vue-là, comme aveuglement. À partir du moment où cette démythologisation, vous savez que c'est un terme qui n'est pas très beau, mais qui désigne une réalité très importante dans notre monde moderne, à partir du moment où ces métaphores, ces symboles de la mort sont impossibles, ou enfin ne sont plus prises au sérieux, ne sont plus vivants, si l'on peut dire, mais c'est vrai, il n'y a que deux solutions. Il y a la solution alors de la hantise de la mort, mettre la mort au centre de nos préoccupations. C'est ce qu'on trouve un peu dans le second Freud, n'est-ce pas, avec Au-delà du principe de plaisir, cet article, avec aussi Malaise dans la civilisation. C'est ce qu'on trouve dans Heidegger, le premier Heidegger, tout au moins. Mais je pense que c'est là une voie qui ne peut être que très rare. Par conséquent, on ne peut trouver comme solution que de masquer complètement la mort. C'est très grave, je pense.
Mais est-ce que cette manière de masquer la mort, de l'occulter, ne correspond pas en fait à une sorte de négation de la réalité, de l'histoire vivante, de l'homme dans son destin? En étudiant cette mythologie du loup, on est frappé d'une chose, c'est que le loup est vivant comme figure symbolique de la mort dans les sociétés historiquement les plus fécondes, parce que la mort fait partie de la vie, parce que le loup, il est l'image nécessaire de cette fin à travers laquelle l'homme invente son présent et un peu son avenir. Et si on cache cette mort, c'est-à-dire si on supprime le loup et ce qu'il représente comme pouvoir de destruction, est-ce qu'en réalité ce n'est pas une sorte d'abdication, finalement de suicide, de renoncement en tout cas?
Je pense que c'est exactement cela, que c'est la négation du réel et de l'homme lui-même. L'homme se nie lui-même dans la mesure où il ne veut pas regarder la mort, qui est pour lui tout à fait au centre de sa condition. Et là, on pourrait revenir à un mot de Voltaire qui est très beau. Alors cette fois-ci, je pense, l'homme est un animal qui se sait mortel. Au moment où il ne veut plus se savoir mortel, eh bien, il cesse d'être homme. Thank you.
Si dans les récits les plus anciens de notre espèce, le loup est le symbole du monde des enfers, ce symbolisme même est chargé d'une double signification, car l'enfer c'est le royaume souterrain, c'est le monde de la nuit, de la destruction, de l'oubli. Mais au-delà du fleuve des morts s'étendent d'autres empires, qui sont des empires de la lumière, de la mémoire profonde, de la découverte de cette fleur d'éternité célébrée jadis par Novalis. Et ce que nous murmure la figure ambiguë du loup, c'est que la mort dont il est le signe fait partie, comme la cruauté, comme la soif du sang, comme le meurtre de la vie elle-même. Et la noblesse du loup, celle que lui confèrent parfois les hommes anciens, les légendes, elle est sans doute dans ce regard lucide que l'animal porte sur sa propre disparition, sur sa propre fin dans le grand courant de la création. C'est peut-être le témoignage qu'à travers sa tragique histoire, le loup nous apprend à méditer, comme le dira Heidegger, l'homme est un être pour la mort, et la vie la plus pleine est celle qui fait à la mort sa place.
C'était Invité de Paris, Les Loups, par Claude Métra, texte lu par Ginette Franck, avec Hervé Savon. Première diffusion sur France Culture le 11 août 1972. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique des Nuits de France Culture.
Upon a dream,